Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous pouvez contacter directement l'émission à Publico, librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris. Émission Des mots, une voix. Vous pouvez aussi la contacter par mail au mail demo.unevoix@gmail.com. Ce mois-ci, dans l'émission Des mots, une voix, nous recevons Tristan Félix pour Rêve ou Crève, Tinbad édition 2022, pour Faux une faille, Z4 édition 2020, et pour Tangor, PHB édition 2020. Hegel au Biegli, pour Totalement Inconnu, Christian Bourgois éditeur en 2022, et pour Petit Éloge de la Jalousie, collection Folio Gallimard. Nous allons commencer l'émission par Tristan Félix, puis Gaël au Biegli. Ça vous va comme ça? C'est pour les obligations de Tristan. Tristan Félix, bonjour. Vous venez de sortir Rêve ou Crève chez Tinbad cette année, Faux une faille chez Z4 édition en 2020, et Tangor chez PHB édition en 2020. Mais ce ne sont pas vos seuls derniers livres. Il y en a un autre dont vous m'avez parlé. Pourriez-vous nous en dire deux mots, même si je n'ai pu le lire?
Il s'agit de Les Hauts du Bouc chez Aetalides, qui est un recueil de poèmes en prose, bon, qui est intitulé, sous-intitulé Nouvelle, mais ce sont plutôt des poèmes en prose de mes errances en Irlande, dans le
Cotentin.
Qu'est-ce
que vous faites comme différence entre Nouvelle et les poèmes en prose?
La nouvelle, elle a vraiment un statut de narration, j'allais dire un peu classique, avec un déclencheur d'action, une chute rapide pour la nouvelle. Avec le poème en prose, il y a quelque chose de l'ordre de la magie qui irradie tout le texte. Il ne se passe pas forcément quelque chose de formidable dans un poème en prose. Enfin, c'est ma façon d'envisager.
Et comment vous faites le choix? Si choix il y a.
Je ne fais pas de choix, en fait c'est l'écriture qui m'amène au poème en prose. Parce que je pense essentiellement poésie et non pas narration. Je ne suis pas une narrative. J'ai aucune mémoire du reste narrative. J'ai déjà l'oubli de mes 7 premières années, alors c'est mal barré.
Moi je pensais que c'est 6.
Ouais, 6, même 7. Ouais.
Bon, j'ai une question là-dessus. Juste celle d'après, d'ailleurs. Vous êtes né au Sénégal, et vous y avez vécu 6 ans, alors 7 ans, je vais mettre changer ça.
6 ans, mais après, il y a une année en banlieue parisienne. Oui, 6 ans en Afrique, voilà. Une année en banlieue parisienne qui est un peu passée aussi à l'autre Javel.
D'accord, donc il n'y a pas d'erreur, je crois. Et vous n'en gardez aucun souvenir, il me semble. Pourriez-vous nous expliquer cela? Avez-vous quelques pistes sur cet oubli, cet effacement de votre mémoire? Enfin, c'est courant, hein,
Bien sûr, mais bien entendu.
C'est extraordinaire. Hein.
Je pense que ça a été.
Ça arrive à beaucoup d'enfants.
Oui. Je pense que ça a été sans doute parmi. Enfin, j'ai ce sentiment sanguin, parmi sans doute les pires années de ma vie. Même si j'en ai retenu, j'allais dire peut-être pour Tangor aussi, le rythme de l'Afrique. La seule chose dont je ne me souviens pas, mais que ma mère m'a dit, c'est que je dansais avec elle. Et les voisines africaines à Dakar, au moment des fêtes de l'indépendance, on dansait dans l'appartement. Et je pense que j'ai en moi ces rythmes, le rythme de l'Afrique, et qui est passé après dans la cadence poétique. Je ne sais pas de quelle façon exactement, mais il y a quelque chose qui est passé par le sang, en tout cas.
Et que vous avez retrouvé dans le tango?
Bien sûr, dans le tango, dans la capoeira, dans la salsa aussi.
Vous avez fait de la capoeira un peu ?
Oui, 2 ans, oui. Jusqu'à ce que je me retrouve avec un coup de pied du maître dans le front. Et là, je me suis cassée, je me suis dit, ça, c'est pas possible.
Oui, j'allais dire, c'est presque un art martial, quoi.
Oui, mais quand un maître te donne un coup de pied dans le front, il faut que tu t'en ailles. Il y a autre chose qui se passe.
C'est entre danse et combat, quoi.
Oui, mais le maître doit se maîtriser.
Bah oui.
Voilà.
Faut en choisir un autre.
Je suis passée à la salsa.
Vous auriez été invincible.
Peut-être, oui.
Aviez-vous accès à tous les livres que vous vouliez, jeune?
Oui, je pense. Ma grand-mère était institutrice et on allait à la bibliothèque dans Dardanos-les-Bains. Et je choisissais essentiellement les livres d'animaux. Mon frère, qui avait 3 ans de plus que moi, choisissait des livres un petit peu plus intellectuels. Je lisais très lentement, il lisait très très vite.
Quel genre de livre il choisissait, vous vous souvenez de certains
titres ?
Non,
je ne me souviens pas. Mais j'ai eu des gros des grosses difficultés de lecture jusque en hippocagne où j'ai fini parce que je vais pas en rentrer dans le détail, c'est pas très intéressant.
Vous avez fini un livre en hippocagne, vous avez comment réussi à finir un livre?
Non, mais là quand j'avais 18-19 ans, j'ai eu des gros soucis, je me suis fait même soigner pendant 6 ans parce que j'arrivais plus à lire. L'écriture devenait du dessin et je pense que c'est une des raisons pour laquelle je suis passée au dessin aussi. Je n'entendais plus rien à l'écriture. L'écriture n'était plus porteuse de sens. Elle était porteuse d'un dessin que je dirais maintenant magique, parce que je lui ai donné du sens beaucoup plus tard, à mon grand âge maintenant. Mais je n'entendais plus rien à la langue pendant... Je n'ai plus rien entendu à la langue pendant 6 ans. Voilà.
Vous arriviez à écrire ?
J'écrivais à 13 ans des lettres à ma mère, des lettres drôles, parce qu'elle m'envoyait des lettres poétiques. Et voilà. Mais j'ai une blessure de la langue, ça c'est sûr. Et quand j'ai lu pour la première femme à l'armée, ça m'a paru très très simple, même si je ne comprenais pas grand-chose. Mais je reconnaissais dans l'écriture de Mallarmé une blessure semblable.
Vous vous intéressez à la poésie. Quelle différence faites-vous entre vers et prose, si vous en faites une ? Pourquoi alors employer les uns plutôt que l'autre ?
Alors ça, c'est une question vraiment intéressante parce que j'ai récemment intégré une équipe bien barrée, l'équipe de LPB, la page blanche, qui est dirigée par Mathieu Laurin et à l'origine Pierre Lamarck. Et il y a des échanges par mail notamment qui portent sur la raison d'être du vers et Pierre Lamarck notamment. On a d'ailleurs eu un échange encore il y a quelques jours là-dessus, enfin pas à moi personnellement mais à l'équipe, sur la nécessité, voire la vanité du vers. Son idée c'est que la poésie innerve un texte et que le lecteur est capable lui-même de faire des vers dans sa lecture. Et que, mais ça c'est sa position, non, c'est en chantier dans ma tête depuis quelques jours. Et à savoir, est-ce qu'un vers donne le statut poétique à un texte ?
C'est autre chose, ça.
Voilà.
Est-ce que vous imaginez Baudelaire en prose ?
Il a fait des poèmes en prose.
Oui, non, mais dans ses Faire du mal.
Mais alors, Pierre Lamarck, notamment, et pas que lui, se met à traduire de façon très insolente et donc géniale des textes en vers qu'on lui envoie, il les balance en prose. Enfin, en prose, il déstructure la ligne martiale, c'est pas lui qui dit martiale, du vers, avec d'autres respirations, de façon à ce que ça devienne des versets ou de la prose. Mais c'est pas inintéressant. Je n'en suis pas encore très convaincue, peut-être ne le serai-je jamais, mais c'est intéressant. Moi, l'idée du vers, c'était l'idée d'une respiration, c'était l'idée aussi d'une contrainte, et sans contrainte... Je ne sais pas, alors c'est peut-être culturel, hein, mais je ne sais pas créer. Il me faut des barbelés pour inventer quelque chose.
Le rythme aussi.
Oui, bien sûr, absolument. Oui. Un rythme. Alors, c'est sûr qu'on peut trouver le rythme au-delà du vers, au-delà des 12 syllabes, ou 10 syllabes, octosyllabes, hexasyllabes, pentasyllabes. Mais j'aime bien aussi ce dispositif linéaire, successif. Mais depuis quelque temps, je ne suis pas définitivement convaincue. Je suis ouverte.
Et vous aussi, Gaëlle Obligli, vous posez cette question vers prose dans vos textes, les deux derniers qu'on va parler.
Dans le dernier, oui. Mais moi, je n'écris pas de poésie. J'ai écrit de la poésie quand j'étais plus jeune, mais... en général, quand j'écris un poème, c'est tous les 6 ans, et ça s'impose à moi. C'est-à-dire que je les écris quasiment sous la dictée. Et oui, je me pose aussi la question vers prose, parce que c'est pas, pour moi, c'est pas, ça n'a pas la même origine. L'écriture en prose et le vers, ou disons. Même la poésie sans versification et l'écriture en prose, qu'elle soit narrative ou non, n'ont pas la même origine.
Et je crois aussi que, bah, pour qu'il y ait... Enfin, l'origine de la poésie, elle est sacrée, elle est magique. C'était pour s'adresser aux morts et aux dieux. Donc il fallait quelque chose... Peut-être après les mains dans les grottes. Il fallait quelque chose qui soit de l'ordre de la transe, de l'ordre de la cadence, du crypté. Et je crois que le chiffre du nombre, alors après c'est devenu, alors je ne suis pas une historienne du vers, hein, mais le nombre de syllabes, je pense, participe de cette volonté d'atteindre à l'inaccessible, qui est le mort ou le divin, enfin... Bon, alors, il y a autre chose aussi, parce que c'est peut-être plus personnel, mais j'ai toujours compté. J'ai compté de façon maniaque, j'ai compté les kilomètres, j'ai compté les phrases, j'ai compté les syllabes. Quand j'avais des soucis de lecture, je me mettais à compter par 3 fois 3, etc., etc., etc. J'avais du mal à calmer mes angoisses sans compter. Donc peut-être aussi, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne veux pas me détacher totalement du vers en tant que ligne comptée, plus ou moins comptée, parce qu'il y a aussi le vers libre, enfin, qui n'est pas rimé, ni très régulièrement compté. Mais dans Rêve ou crève, il y a de l'alexandrin rimé, il y a de l'alexandrin pas rimé, il y a du pas compté, pas rimé, un peu de tout.
Comment trouvez-vous vos éditeurs ? Vous avez une liste de livres publiés long comme le bras, avec presque autant d'éditeurs que de livres, presque. On en retrouve quand même quelques-uns qui reviennent de temps en temps.
Ben c'est Françoise Favretto.
Vous avez un carnet d'adresses grand.
Ben, Françoise Favretto de l'Atelier de l'Anneau, qui m'a édité il y a longtemps, me disait qu'il faudrait... Enfin, je ne sais plus ce qu'elle me disait, c'est pas un impresario, mais parce que j'écris des choses... Enfin, elle me dit que tu écris des choses tellement différentes qu'il te faudrait un éditeur par bouquin. C'est un petit peu ce qui se passe. Récemment, c'est Christophe Hainaut.
Comment vous faites ? Vous la renvoyez ?
Alors récemment, par exemple, Christophe Hainaut m'a parlé de Tristan Félix aux éditions Aetalides, ainsi qu'à Tinbad. C'est comme ça que j'ai été éditée par ces deux éditeurs. Le premier livre que j'ai écrit, je l'ai envoyé à Dumerché, et quelques jours plus tard, c'est Berhadad qui me donnait rendez-vous à la Gare du Nord. Donc ça a été une grande surprise et un grand bonheur aussi. Sinon, j'essaie des envois.
Dumerché qui a mal tourné.
Oui. Bah ouais, y a des
passons, n'en parlons plus.
Oui, il ne faut pas de diffamation. Oui. Sinon, ça se fait un petit peu par famille, c'est une espèce de parentèle poétique. Ce sont des affinités. Qui fait qu'on se rencontre. On se rencontre aussi sur des salons de revues, au salon de l'autre livre. Je sais que j'ai présenté, par exemple, j'ai suggéré à Jean-Claude Gouary de proposer des textes à PHB Éditions, à Philippe Barrault. Et Jean-Claude Gouary est un écrivain que je trouve excellentissime, très très fort, très très pentu. Et je suis très heureuse que Philippe Barrault l'ait accueilli. Voilà, il y a des choses comme ça. On se lit. On lit d'autres poètes que soi-même, évidemment, heureusement. Et c'est ainsi que se forment les familles agrandies. Les familles agrandies. Voilà,
Quel écrivain vous ont marqué adolescente ?
Oh, mais c'est la fameuse triade que ma mère m'a offerte quand j'avais 14 ans. L'Autréamont, Baudelaire... Rimbaud.
Il y a pire,
oui, je pense. Et ça a été comme des je dirais pas des ciels qui s'ouvrent, mais des gouffres. Des grands gouffres qui se sont ouverts. Et l'aune était tellement haute que il a fallu plus tard s'ajuster comme on pouvait. Et ces trois-là, alors, l'Autréamont, lui, il n'est pas en vert, mais qu'est-ce que ça swing ? Qu'est-ce que ça balance ? Puis ça gueule, puis ça crie, ça éructe, ça apostrophe l'univers, et c'est réjouissant. Ce sont des auteurs qui sont tout sauf soumis, qui ne répètent pas une culture littéraire,
On le voit par la vie, en tout cas, de Baudelaire et de Rimbaud.
Oui.
L'autre amont, on n'en sait pas grand-chose, mais Baudelaire et Rimbaud, on voit leur vie, quoi.
Ouais.
Ils ont toujours été en marge et ils ont refusé jusqu'à finir chacun de leur manière.
Bah, écrire, c'est refuser, je pense. Je pense que votre terme est fort juste. C'est refuser pour construire autre chose sur des ruines. Enfin, construire autre chose, construire ou mettre en branle quelque chose. Refuser, oui. Refuser ce qui a été imposé, refuser ce qui a fait mal, refuser ce qui a manqué vous flinguer, refuser ce qui est inique, refuser ce qui est laid. Annie Lebrun en sait quelque chose dans son fameux livre « Ce qui n'a pas de prix ». Et c'est pourquoi je ne cesse de faire de la publicité sur cet ouvrage. Ce qui n'a pas de prix de Annie Lebrun. J'ai oublié l'éditeur. C'est quoi déjà?
Ben, c'était son ancien éditeur.
Oui. C'est qui?
C'est Stock.
C'est chez Stock, oui.
Mais enfin, son ancien éditeur, c'était Gallimard.
Et refuser l'allée d'or, c'est une sacrée paire de manches. Je nous sens de plus en plus envahis par la laideur, que ce soit la laideur architecturale, que ce soit la laideur du langage, la laideur médiatique.
Vous vous rendez compte, parler de laideur architecturale, si on regarde, bon, pas par exemple Guggenheim, tout ça, qui est plutôt une réussite, mais si on regarde globalement les bâtiments qu'on va laisser dans la périphérie, partout.
C'est bien, on construit des ruines.
Des parallépipèdes. partout, une infinité de parallépipèdes avec des petites ouvertures, tout pareil.
Il n'y a pas de balcon.
Il n'y a rien.
Il n'y a pas de possibilité d'aller dehors.
Rien. Et en dehors, c'est rien.
Des plaques.
Il y a du béton ou des pelouses. Il n'y a même pas de forêt. Il n'y a rien au pied des bâtiments.
Mais je pense
pas
que c'est une façon extraordinaire. On me traita de paranoïaque, sans doute, mais je préférais être paranoïaque et lucide. C'est une façon extraordinaire de faire fermer sa gueule à la majorité des gens, de les enfermer dans un endroit qui les tue, architecturalement, géométriquement parlant. Un corps n'est pas carré.
Alors, en disant, c'est déjà bien que t'es ça, quoi.
Pardon ?
En leur disant, c'est déjà bien que t'es ça.
Oui, oui. La culture de l'indignité...
Et aller au Biégli, qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Non, j'acquiesçais quand vous disiez que c'est une volonté de leur dire estimez-vous heureux, vous êtes déjà vous êtes à l'abri, alors que c'est pas le cas de tout le monde. Donc moi non plus je voudrais pas passer pour une paranoïaque, mais comme si la répartition de ceux qui sont dehors et de ceux qui sont à l'abri, même mal logés, était organisée de manière à ce que ceux qui sont dans ces parallélépipèdes hideux pouvaient être considérés par eux-mêmes comme un réconfort par rapport à la situation affreuse de ceux qui dorment dehors.
La dignité du pauvre, c'est d'être dans la laideur. On arrive quand même à des insanités idéologiques de cet endroit-là. C'est terrifiant.
Vous avez fait des études puisque vous êtes professeur. Quel fut le sujet de votre mémoire à la fac? Pourquoi?
Oh ben j'ai travaillé sur Jean Rey pour la seule raison que j'ai trouvé ses bouquins par hasard sur des bancs au bord de la Seine chez les bouquinistes. Je suis tombée sur Jean Rey, puis j'aimais bien. Notamment la cité de l'indicible peur. Mais je serais peut-être tombée sur un autre auteur et j'aurais fait une maîtrise dessus.
Nietzsche.
Pourquoi pas? C'était plutôt en philo. C'était plutôt en philosophie, mais j'étais en littérature. Mais en tout cas, c'était du fantastique. Et c'est vrai que le fantastique et puis la Belgique m'ont tenu un certain temps.
Vous avez plein de noms propres dans la bibliographie que vous m'avez fait parvenir. Mais j'aimerais, si vous le voulez, que vous me parliez un peu de Philippe Blondeau, avec qui vous avez co-dirigé pendant 12 ans la revue La Passe.
Alors, Philippe Blondeau, on s'est connus justement au moment des concours pour devenir professeur. Lui est devenu donc professeur de français, comme moi. Et puis, pendant que nous faisions des colles pour réviser la grecque ou le CAPES, l'idée nous est venue lorsqu'on a aperçu un plastique bleu accroché à un barbelé. Ça, c'est l'anecdote intime. On s'est dit, tiens, et si nous fondions une revue où les écritures se croiseraient et non pas une revue comme catalogue d'égaux successifs. Donc est née cette revue La Passe, donc cette idée de faire en sorte qu'un texte se matine d'un autre texte, créolise, soit caviardé par un autre texte, de façon à créer un tiers texte. Cette aventure a perduré durant 13 ans.
Merci. Je propose que nous mettions un petit morceau de musique, Tristan Félix. Vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation sur Radio Libertaire. Musique, Erwan.
Ça, c'était un extrait de La mort se fait la belle, le CD qui est sorti l'an passé aux éditions Venues d'ailleurs. Et c'est un travail de collaboration avec Johan Armangil, qui est collagiste plasticien, pataphysicien aussi et surtout, et qui est aussi collagiste musical et avec lequel... voilà.
C'est quoi un collagiste ?
C'est quelqu'un qui fait des collages. Les premiers, on connaît... Enfin, il y a eu aussi Andersen, mais Jacques Prévert est connu aussi pour ses collages. Des collages de photographies, de dessins, de gravures.
Oui, de dessins.
Et il est dessinateur également.
De photos voilà, aussi, je connais tout ça, mais de musique.
Ben alors là, c'est
le montage, quoi.
Voilà, c'est un montage musical, et avec voilà, ma voix et mes bruitages. Voilà.
D'accord, merci. Alors après, vous écoutez Radio Libertaire, l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Vous pouvez contacter directement l'émission au 145 rue Amelot, à la librairie Publico, émission Des mots, une voix, dans le 11e arrondissement à Paris. Vous pouvez aussi contacter l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. Alors, en quoi consiste votre travail de dessinatrice ?
Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la langue m'est désapparue ou a disparu de ma conscience intelligente quand de 18 à 24 ans, en pleine étude de lettres. Et plus tard, je ne sais pas, par transfiguration ou je ne sais pas, par maturation obscure, je me suis mise au dessin qu'on pourrait appeler médiumnique, sauf que je ne suis pas en communication avec les esprits, mais plutôt avec... un inconscient, en tout cas, on peut appeler ça aussi dessin automatique, dessin surréaliste.
On avait déjà parlé, oui, je vous disais, oui. Est-ce que c'est médiumnique dans le sens où vous avez une vision et vous la reproduisez, vous reproduisiez,
non,
vous avez répondu non.
Non, je multiplie les motifs et peu apparaît une forme qui peut elle-même être contrariée par un autre afflux de motifs, etc., jusqu'à ce que... une forme multiple, polyphrène, advienne sur la page. Et la plupart de mes dessins sont de cette facture-là.
On en trouve beaucoup dans vos livres.
Oui. Pour moi, c'est aussi une forme d'écriture. Et mon écriture, enfin, certains n'apprécient pas parce qu'elle est très dense. Mais je sens en tout cas un lien entre la façon que j'ai de dessiner et celle d'écrire, avec la même densité. Où on peut y lire plusieurs figures en même temps. Dans les dessins médiumniques, enfin dit médiumniques, hein, j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais on va dire les dessins automatiques, on peut renverser le dessin à droite, à gauche, en haut, en bas, le renverser, on y aperçoit des figures, enfin, des figures, des visages par exemple, ou des formes, et peut-être en écriture ce serait la même chose.
Bon, on va s'arrêter là sur les questions générales. On va passer au livre Rêve ou Crève, sorti aux éditions Tidemois en 2022. Comment vous vient l'idée d'un livre et de celui-ci en particulier ?
Alors celui-ci regroupe des écritures de périodes différentes, mais le titre m'a semblé fédérateur pour un certain nombre d'entre eux, dans la mesure où, pour moi, le rêve est sans doute une des plus grandes résistances politiques qui puissent exister de nos jours. Il est inaliénable. Et si on nous prend notre rêve, on meurt. Et on parlait tout à l'heure de la laideur du monde. Et la laideur du monde empêche... Enfin, le travail assourdissant aussi des gens empêche l'être de rêver à autre chose. Et au départ, le titre était trop long. C'était pas... C'était pas crevé. Enfin bon, bref. On a réduit ce titre à Rêve ou crève. Et je pense que c'était très bien. Et je pense que si je ne rêve pas, si on ne rêve pas, on est mort. Et il y a beaucoup de morts vivants.
Ça a été dit plein de fois.
Oui,
quelqu'un
sûr,
qui ne rêverait pas mourrait.
Exactement.
Même s'il ne se souvient pas de ses rêves toute
Absolument.
Sa vie. Mais le rêve est obligatoire pour évacuer toutes les pensées de la journée.
Ici, je donne un petit extrait ici. La vie sévit en travers de la gueule, c'est la balafre de l'étrange fruit qui pend depuis la nuit des temps. Pour crever de terreur, les grands yeux des amants, une morsure de la loi en pleine pomme. le ver retourne le sol. Dans la fosse à ciel, ouverte les jours de vacances, une colonie fraîche. Sa robe en corolle sans un pli, c'est l'abîme. On visite les eaux, en se tenant par la main. Ils sont très blancs. Toute trace de visage a disparu. Le massif des lauriers ternis absorbe un reste de lumière. C'est un extrait de Rêve ou crève, édité donc chez Tinbad, et qui est extrait d'une section qui s'intitule Noir Éden.
Pourquoi êtes-vous attiré par la morbidité, entre parenthèses, crâne, fantôme, putréfaction, monstre, cadavre, etc. Est-ce le contrepoids de la vie ou c'est la vie même?
Ah, vous résumez bien la situation, je trouve. C'est un peu les deux, on joue avec la mort, les enfants jouent avec la mort. Je le dis souvent, je n'ai pas dépassé l'âge de 4 ans et demi. À tripoter les morts, on sent comme une familiarité, on se sent encore un peu vivant. De toute façon, les morts ne sont jamais totalement morts. À être régulièrement bouffés par les larves, etc., ils sont pleins de vie d'une certaine façon. Et un vivant qui est colonisé par les bactéries ou les virus, et aussi, d'une certaine façon, à sa part de mort. Mais plus généralement, en Occident, on a inventé définitivement une rupture entre le vivant et le mort. Partout ailleurs dans le monde, il y a un continuum du vivant à la vie. Du vivant à la mort. Du vivant au mort, si je veux dire. De la vie à la mort. Et il m'arrive fréquemment de parler à ce que l'Occident considère comme inanimé. À un rocher... à une de mes marionnettes, à de la mousse, à une plante. Je suis pas la seule, hein, heureusement.
C'est beaucoup dans la religion animiste.
Oui, je vous parlais d'animisme, absolument. Mais je mettrais sans le mot religion.
Oui.
Si dans la religion, il y a religuerer, hein, qui veut dire relier. C'est très, très beau comme idée, en fait. Après,
enfin, disons dans l'animisme.
Voilà, quoi, absolument.
Ou dans, je ne sais pas comment dire, mais bon...
Donner un souffle de vie à ce qui...
On dit ça comme ça, quoi.
Oui, absolument.
Vous savez qu'ici, nous, le religieux, c'est pas notre truc.
C'est pas trop le mien.
C'est
non
le moins
plus.
Qu'on puisse dire, mais enfin bon, c'est quand même des mots, ça existe, quoi, malheureusement.
Et les vers d'une poésie sont aussi des organismes vivants. Alors, avec le fameux jeu de mots vers et vers, comme ce que je viens de lire, les choses sont vraiment organiques. Enfin, je considère la langue, même quand je suis enseignante. Et ce que j'enseigne absolument à ma façon, pas comme on m'a demandé de le faire, j'enseigne la langue comme un organisme vivant. À chaque fois que j'enseigne la grammaire, je ne leur parle pas de formules de grammaire à apprendre par cœur pour avoir un contrôle, une évaluation après. Je leur dis que ce sont, je compare très souvent à des plantes, à des graines, à des animaux qui se nourrissent de telle ou telle façon. Et on retrouve exactement la même chose dans le fonctionnement de la langue. Ce qui est un peu normal, puisque nous sommes des êtres humains. Donc notre langue est à l'image de notre organisme. S'il y avait une grammaire de la truite ou une grammaire du trèfle, je pense que la grammaire contiendra en elle le fonctionnement du trèfle ou de la truite.
Est-ce que tous les textes présents ici étaient prévus pour figurer dans ce livre ou viennent-ils d'horizons divers?
Ils viennent d'horizons divers, oui. D'époques différentes. Ils viennent aussi du spectacle du théâtre des pendus que j'anime depuis un peu plus de 15 ans. Donc il y a des allers-retours entre la scène et les cris, entre le clown, la marionnette et le poème, en prose ou en vers. Après, c'est difficile de faire un recueil, de recueillir un ensemble pour qu'il ait une cohérence. Et pour moi, il y a une cohérence dans la mesure où tout ça, c'est de la poésie, que ce soit du clown, que ce soit de la marionnette, que ce soit de l'écriture, ou du dessin, ou de la photographie. C'est le flux continu du poétique qui est à l'œuvre, comme une pulsation sanguine.
Je vous pose une dernière question, vous y répondez vite, d'accord,
oui.
Tristan, il est déjà 15.
Tac.
Mais elle est engagée. Dans votre triptyque contre le nucléaire, que vouliez-vous exprimer? Mais je tenais à la poser, parce que il y a un retour de bâton en ce moment pour le nucléaire, oui. En mauvais sens, suite aux événements qui se passent.
Alors, la question est difficile. Irradier l'humain, enfin, on en revient... ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, je ne veux pas donner un sens à ce que j'écris non plus, hein, mais les vers que j'ai balancés étaient un petit peu comme des rayons qui devaient rentrer en collision avec les rayons nucléaires de Nagasaki ou d'Hiroshima. Je ne sais pas pourquoi l'être humain a inventé le rayon pour se détruire lui-même. Un rayon, c'est censé émaner de la lumière, c'est censé donner de la lumière, et par la lumière, on éteint. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, j'en suis désolée.
Mais non, mais bon.
Avec la lumière, on est censé donner la vie, et là, on détruit. Il y a une pulsion suicidaire grandissante de l'être humain.
C'est une réponse, ça.
De l'être humain actuel. Et comment expliquer cette pulsion suicidaire? Je pense que la Terre se rétrécit par... je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, mais l'envahissement numérique fait que tout communique à l'instant même. On est dans l'instant. Le temps a disparu, l'espace a disparu. Il n'y a plus qu'à irradier l'autre.
Ce qui fait mal, c'est le revival du nucléaire, quoi, en ce moment, à cause des événements.
Ouais.
Les gens se prient devant les centrales comme si elles allaient apporter la solution à tout, quoi.
Ouais.
Jusqu'à la catastrophe, quoi. On va s'arrêter là, Tristan. Mm-hmm. Je vous remercie. Je vous laisse filer, courir, voler à vos rendez-vous. Et nous passerons dans la deuxième partie d'émission avec Gaël Aubier-Gly. Petit morceau de musique, Erwan.
De La mort se fait la belle du CD avec Arsène Trifon, et ce morceau s'appelait La révolte des yeux rouges en faux chinois, puisque je parle une douzaine de langues vraiment imaginaires, à vraies consonances en tout cas, et c'est ce qui me permet peut-être de réparer la souffrance de la langue quand j'étais plus jeune.
Merci Tristan. Nous vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Nous avons reçu en première partie d'émission Tristan Félix pour Rêve ou Crève, sorti chez Tinbad, dont on n'a pas pu parler, Tangor, sorti chez PHB Édition, et pour Faux une Faille, chez Z4 Édition.